Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Cette semaine, comme tous les ans, grands argentiers, financiers de haut vol, chefs de grandes entreprises étaient réunis à Davos en Suisse. Cette réunion a coïncidé avec l'annonce d'une croissance de plus en plus faible en Chine, celle d'une possible récession au Japon, avec un bras de fer entre Donald Trump et le Congrès qui commence à peser sur l'économie américaine, avec une rupture entre la Grande-Bretagne et l'Europe qui semble devoir être douloureuse, enfin avec un défi démographique et environnemental qui pèse sur les économies africaines, et on pourrait poursuivre longtemps cette énumération de problèmes qui semblent mettre l'économie mondiale à la difficulté. La directrice générale du FMI, Christine Lagarde, résumait la situation de cette manière lors des journées de Davos au début de la semaine.
But even as the economy...
Même si l'économie continue de croître, elle fait face à des risques significatifs. Et certains sont liés aux politiques menées. Est-ce que cela veut dire qu'une récession mondiale est à notre porte? Non. Mais le risque d'un déclin plus net de la croissance a sans aucun doute augmenté.
Alors, est-on à la fin d'un cycle économique? La croissance mondiale va-t-elle plonger? Est-on à la veille d'une crise économique? Nous allons tenter non pas de prévoir, ce qui est très difficile, mais d'analyser la situation économique actuelle avec deux invités. Bonjour, Véronique Riche-Flores.
Bonjour.
Véronique Riche-Flores, vous êtes économiste indépendante. Vous publiez une lettre qui porte votre nom. Avec vous en studio, El Mouhmoud. Bonjour.
Bonjour.
El Mouhmoud, vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine. Au mois de novembre 2017, une nouvelle édition de votre livre « Mondialisation et délocalisation des entreprises » est parue dans la collection Repères aux éditions La Découverte. Vous avez également publié en cette même année 2017 un livre qui s'appelle « L'immigration en France, mythes et réalités » aux éditions Fayard. Nous allons retrouver des reportages dans cette émission avec Mounia Daoudi à Davos, Stéphane Lagarde à Pékin et Anne Corpet à Washington. On l'entendait à l'instant, la directrice générale du FMI, la française Christine Lagarde, déclarait en ouverture du sommet de Davos en Suisse qu'elle ne s'attendait pas à une crise, mais à un net ralentissement de la croissance de l'économie mondiale. Direction Davos, où s'est tenue cette semaine la 49e édition du Forum économique mondial, ce grand rendez-vous de la mondialisation, qui chaque année réunit dans cette petite station de ski des Alpes suisses grands patrons, décideurs politiques et personnalités de la société civile. Mounia Daoudi, vous êtes notre envoyée spéciale sur place. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors c'est un peu à Davos qu'on prend le pouls de l'économie mondiale, Mounia, pour les mois qui viennent, pour l'année à venir. Et il ne semble pas cette année que l'optimisme est dominé. Vous confirmez ?
Oui, on est effectivement bien loin de l'euphorie de l'an dernier, 10 ans après le déclenchement de la crise financière. À l'époque, rien ne semblait entamer l'optimisme des grands patrons, pas même les menaces protectionnistes de Donald Trump qui avait fait le déplacement à Davos. Mais cette année, c'est clairement l'inquiétude qui domine. Et le ton a été donné la veille de l'ouverture de forum par Christine Lagarde, la directrice générale du FMI, qui a annoncé une révision à la baisse des prévisions de croissance pour l'économie mondiale en 2019. Alors, il faut savoir que c'est la deuxième fois en moins de 3 mois que le fonds revoit ses estimations. Alors, rien de dramatique. L'économie mondiale va continuer à croître cette année, 3,5%, mais elle doit faire face à des risques significatifs, a insisté Christine Lagarde. Elle a bien sûr écarté tout risque de récession mondiale, mais pour elle, le risque d'un déclin plus net de la croissance a considérablement augmenté.
Un sentiment, Mounia, partagé par les patrons des grandes multinationales qui étaient réunis à Davos.
Oui, c'est en tout cas ce qui ressort de l'étude qui a été publiée par le cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers. C'est une bible ici à Davos qui prend un peu le pouls des dirigeants de quelques 1300 grands groupes. Et cette année, seuls 42% d'entre eux se disent optimistes. Ils étaient 57% en 2018, c'est tout de même 15 points de moins, mais plus inquiétant, Jean-Pierre, 29% se disent carrément pessimistes, c'est 6 fois plus que l'an dernier, avec une conséquence notable, une tendance marquée au repli sur soi. Ainsi, quand on leur demande où ils veulent investir, ils ne savent pas vraiment. Ils préfèrent faire le dos rond, reporter leurs investissements, faire de la consolidation plutôt que du développement. Et ça, c'est jamais très bon signe quant à la santé de l'économie mondiale.
Quelles sont les menaces qui pèsent aujourd'hui sur l'économie, Mounia Daoudi ?
Alors, elles sont clairement liées aux tensions géopolitiques, à commencer par la guerre commerciale sino-américaine. Alors, Donald Trump a beau se dire confiant sur la conclusion d'un accord d'ici mars, il est clair pour tout le monde que les deux puissances sont engagées dans un bras de fer qui dépasse largement le cadre commercial. C'est vraiment à qui dominera le monde. Il y a ensuite le flou qui entoure les modalités du Brexit. Comment va se faire le divorce entre Bruxelles et Londres et surtout ses conséquences? Le FMI a rappelé ici à Davos le coût du Brexit pour l'économie britannique, 5 à 8% de croissance. Nous sommes également à quelques mois des élections européennes avec une montée des populismes, des crises sociales qui éclatent un petit peu partout, notamment par rapport à ce qui se passe en France avec les gilets jaunes. Et face à tout ça, on n'a pas vraiment de véritable projet européen. Et si vous ajoutez à cela une croissance chinoise qui commence à marquer le pas, bah tout ça, ça fait beaucoup de choses et ça ne prête pas vraiment à l'optimisme.
Beaucoup de choses dont on va parler avec nos deux invités. Mounia Daoudi, merci à vous à Davos. Véronique Riche-Flores, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de neuf d'une année sur l'autre dans cette économie mondiale? Parce que les tensions américano-chinoises, l'incertitude sur le Brexit, la montée du populisme, tout ça était déjà inscrit l'an dernier.
Vous avez raison. La plupart de ces grands sujets étaient déjà inscrits. Et je dois dire que on a plutôt l'impression d'une poursuite, d'une continuation et d'être arrivé à un point où il est de plus en plus difficile d'ignorer ces grands sujets. En réalité, l'an dernier, ces sujets étaient là, mais on pouvait beaucoup tenter de les mettre sur le côté en disant bon, les conflits commerciaux entre la Chine et les États-Unis vont finir par être résolus, il y aura forcément un compromis. Personne ne croyait véritablement à ce qu'on puisse aller au point de rupture actuel. Les entreprises avaient des perspectives bénéficiaires telles que forcément ça devait être bon pour la croissance. On s'aperçoit aujourd'hui qu'effectivement ces bénéfices ne sont pas allés à l'investissement et que la croissance en pâtit et que finalement ce qui a mené les développements de l'économie mondiale depuis quasiment 30 ans, c'est-à-dire ce grand mouvement de globalisation, de mondialisation, est véritablement en train de faire marche arrière, hein, avec des fossés qui se creusent et dont on prend conscience aujourd'hui de la difficulté à envisager que le mouvement s'arrête là.
Je vous pose la même question. Qu'est-ce qui a changé d'une année sur l'autre pour qu'il y ait ce pessimisme à Davos ?
Je crois que ce qui a changé, c'est la concrétisation des menaces de 2017. C'est-à-dire qu'au fond, on avait des annonces d'un protectionnisme industriel très fort de la part de Trump et l'administration américaine sur l'industrie manufacturière, car c'est là-dessus que les déficits américains se cumulaient. A contrario, les États-Unis avaient des excédents dans les services, et donc on avait cette menace de droits de douane élevés sur l'automobile, l'acier, l'aluminium, etc. Ça s'est concrétisé. De l'autre côté, la Chine avait des excédents extrêmement forts en biens manufacturiers, et on s'attendait pas non plus à ce que ce soit aussi rapide. Il y a eu une concrétisation de ces droits de douane, et la Chine est obligée aussi de revoir son modèle de croissance, son modèle de développement, se retourner davantage vers l'intérieur. Donc je dirais que les menaces se sont concrétisées, et on est effectivement là face à des risques qui ne sont plus seulement des risques annoncés, mais des risques réels.
Véronique Riche-Flores parlait de marche en arrière de la mondialisation, vous êtes d'accord avec cette...
Alors, en partie seulement, parce que je crois que ce qui s'est passé réellement concernant la mondialisation, c'est qu'on a bien eu un recul du commerce mondial depuis les années 2008 après la crise du subprime, et donc on a bien ce recul du commerce mondial, ce reflux du commerce mondial, ce que les économistes appellent les élasticités du commerce mondial, c'est-à-dire le rapport entre la croissance du commerce et la croissance du PIB. Eh bien, effectivement, ces élasticités se sont ralenties, on est à peu près à un taux de croissance du commerce mondial équivalent à celui de la production mondiale, alors que durant toutes les années 90, on avait une croissance du commerce mondial beaucoup plus dynamique que celle de la production mondiale. Donc on est dans un reflux commercial qui est lié principalement au retrait, à la rétractation des chaînes de valeur mondiales sur des bases régionales à cause de la montée des coûts salariaux unitaires en Chine, en particulier dans les pays émergents, qui ont presque rattrapé les coûts salariaux unitaires américains. Et donc, en plus des coûts de transport, on a eu cette rétractation, ce recul de la dilatation des chaînes de valeur mondiales.
C'est-à-dire que les chaînes de valeur ne sont plus mondiales?
Elles sont régionales. Elles sont devenues régionales.
C'est-à-dire qu'un produit ne va plus dans 40 pays avant d'être vendu, mais...
Il revient pour l'industrie manufacturière beaucoup plus vers les zones régionales, vers l'Europe, vers les États-Unis. Et le protectionnisme accompagne ce mouvement-là, en effet. Mais attention, la mondialisation, c'est pas que le commerce. Et finalement, c'est l'une des composantes clés de la mondialisation. Mais il y a aussi les investissements directs à l'étranger. Il y a la finance. Et en fait, c'est et les technologies, les migrations internationales. Et c'est les composantes qui ont un peu, d'une certaine manière, remplacé ou compensé ce recul, cette démondialisation réelle par le commerce. Eh bien, c'est l'investissement direct à l'étranger qui, lui, s'est accru. En d'autres termes, plus il y a du protectionnisme, plus les firmes vont aller chercher les marchés en s'installant sur place. Et donc, ce mouvement d'investissement direct a tout de même repris depuis 2012 et compense en partie la rétractation des chaînes de valeur mondiales et le recul du commerce. Donc, je ne dirais pas que l'on assiste à une démondialisation complète avec un processus de renationalisation des économies.
Véronique Riche-Flores, vous évoquiez les grandes entreprises dont les bénéfices ne vont plus vers l'investissement. C'est un peu en contradiction avec ce que disait El Mahmoud.
Alors, pas forcément contradiction, mais qu'est-ce que vous vouliez dire précisément ? Effectivement, ce qu'on constate effectivement, c'est que les grandes entreprises, enfin les entreprises en général, et c'est plus flagrant quand on regarde les grands établissements, parce qu'effectivement, ceux-là ont certainement les moyens d'investir. Hein. Or, ce qu'il se passe effectivement, c'est qu'il y a une préférence pour l'accumulation du cash, donc des bénéfices, plutôt que la prise de risque, qui consisterait précisément à étendre son outil de production, de commerce ou quel qu'il soit. Donc je pense que véritablement, avec la cassure des échanges internationaux à laquelle on a assisté depuis 2008, qu'est-ce qui se passe ? Finalement, dans les années antérieures à 2008, vous n'aviez aucune chance en tant qu'économie, quelle qu'elle soit, de prospérer si vous n'entriez pas dans la danse des échanges mondiaux. Donc si vous n'acceptiez pas cette mondialisation, ce qui était absolument nécessaire. Aujourd'hui, parce que le commerce mondial n'est plus attractif, n'est plus un moyen de croître, alors les pays, les gouvernants, ils sont beaucoup moins attachés et souvent attachés plutôt à se préserver, à se replier sur eux-mêmes, ce qui va à l'encontre également, in fine, du développement des investissements directs. Et c'est bien ce que nous montrent également les tendances depuis un an et demi, deux ans. Par exemple, l'investissement direct en Chine qui a ralenti considérablement. Et ce qu'on voit qui fait partie un peu, me semble-t-il, de ces évolutions et ces enchaînements, c'est par exemple que les Chinois commencent à développer un caractère un petit peu nationaliste, à être beaucoup plus enclins à acheter les produits de leurs propres entreprises qui ont bien souvent très peu à envier maintenant à ceux du reste du monde ou les Américains. Et finalement, on voit prendre forme cette tendance au nationalisme qui est éminemment le résultat des tendances de fond des échanges ou du commerce mondial. Donc voilà, qui préfigure un environnement géopolitique, géostratégique, beaucoup plus conflictuel, beaucoup plus difficile, y compris pour le futur de la croissance.
En vous écoutant tous les deux, je pense au continent africain qui a cruellement besoin d'argent, d'investissement. Tout ce que vous dites me laisse à croire que l'argent ne va plus aller vers cette région du monde parce qu'il faut prendre des risques, parce qu'il y a besoin de beaucoup d'investissements. Or, si on est dans le chacun pour soi, dans le protectionnisme régional, pas national, est-ce que l'Afrique va trouver sa place dans ce nouveau monde qui se dessine ?
Alors,
El Mahmoud.
En fait, quand on regarde l'évolution des investissements directs, ils ont repris depuis 2012 très nettement. Alors, il y a aussi des opérations financières là-dedans, mais il y a une reprise. Mais c'est effectivement plutôt en Amérique du Nord, plutôt en Asie, dans les 10 grandes économies en croissance d'Asie, pour accéder au marché, et assez peu en Afrique. La part des pays d'Afrique dans l'accueil des investissements directs reste inférieure à 3%. Donc, c'est quelque chose qui est assez inquiétant, et les investissements directs qui vont en Afrique, qui vont plutôt dans le secteur des hydrocarbures, des matières premières, plutôt que dans des secteurs d'accès de biens manufacturés ou de services ou d'accès au marché. Donc on est dans une situation où Je crois que, par exemple, les flux financiers et les flux d'investissement direct, précisément, ils viennent de Chine. La Chine en reçoit moins d'investissements directs à l'étranger, mais investit beaucoup à l'étranger. Et investit beaucoup pour des raisons qui sont liées à, finalement, l'utilisation de ses excédents en termes de ses réserves de change. D'un côté, en autorisant des sorties de capitaux, des voyages de leurs consommateurs. Et de l'autre côté, en se désengageant de la détention de bons du trésor américain. Et en fait, les investissements directs chinois à l'étranger, ils ont pour fonction en Europe et dans les pays développés de compenser précisément les barrières commerciales en allant chercher des brevets, en allant chercher des technologies, en allant chercher des biens qui vont permettre de d'accompagner le changement du modèle de croissance chinois. Et en Afrique, ce qui sauve l'Afrique d'une certaine manière, c'est aussi l'afflux d'investissements directs chinois et l'utilisation de ces excédents chinois dans des domaines des infrastructures ou des matières premières, etc. Donc en effet, en termes de croissance, de manière conjoncturelle aujourd'hui, l'Afrique est quand même le continent délaissé avec des marges de fragilité post-printemps arabe pour ce qui concerne les pays du sud de la Méditerranée et de l'est de la Méditerranée. Hein, avec, en particulier au Maghreb, les risques sont extrêmement nombreux, et à la fois économiques en Tunisie, en Algérie, en Libye, et puis des risques géopolitiques majeurs, parce que la situation, l'incertitude politique du post-printemps arabe risque en effet là aussi d'avoir des effets géopolitiques totalement inhibant pour la croissance économique de la région.
Dernier cri, Flores, cette dernière frontière du développement de la croissance mondiale dont on disait que c'était l'Afrique, il est pénalisé ce continent par la situation économique actuelle ?
Il est pénalisé, oui, bien que le continent ou l'Afrique subsaharienne conserve des avantages, notamment dans sa richesse en ressources naturelles, en matières premières. Néanmoins, si on revient au début de la décennie, tous les économistes nous parlaient, j'ai contribué à ce débat, nous parlaient de l'expansion du monde émergent tiré par la Chine, l'émergence de cette nouvelle classe moyenne, des besoins, etc. etc. Dans ce contexte-là, l'Afrique trouvait une place légitime et presque naturelle du fait de ses abondantes richesses. Les Chinois ont investi massivement en Afrique pour rapprocher et sécuriser leurs ressources naturelles quelque part. Une fois que l'économie chinoise s'est embourbée, n'a plus eu les moyens après cette rentrée endettée comme elle l'a fait, de soutenir artificiellement sa croissance dans des proportions d'ailleurs intenables, eh bien finalement on a assisté à un ralentissement généralisé de la croissance du monde émergent et de la croissance des besoins en matières premières. Et ça, c'est revenu effectivement comme un facteur négatif, défavorable à la poursuite de la dynamique de l'investissement en Afrique. On a bien néanmoins quelques tentatives d'investissement industriel dans certains pays, mais c'est beaucoup plus compliqué effectivement. En l'occurrence, il est beaucoup plus fréquent et plus pratique sans doute d'envisager des délocalisations de l'industrie chinoise à bas coût vers le reste des pays d'Asie, je pense au Vietnam ou l'Indonésie, etc., les Philippines, qu'en Afrique dans une grande proportion. Donc on voit qu'effectivement les vents sont moins porteurs qu'espérés, et que notamment les Brésiliens, qui avaient été un temps très présents en Afrique, sont beaucoup moins actifs parce qu'il y a beaucoup moins de besoins, de préoccupations imminentes par rapport à la nécessité des ressources africaines.
C'était Éco-d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI. Nous parlons de l'économie mondiale en proie au pessimisme en cette année 2019 avec deux invités, El Moumoud, professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine, et Véronique Riche-Flores, économiste indépendante. Vous avez parlé à l'instant de l'Afrique, mais aussi de la Chine. C'est une des locomotives depuis longtemps de l'économie mondiale. Pour 2018, les statistiques officielles de ce grand pays parlent d'un rythme de croissance de 6,6%. Ce sont des chiffres fiables, Moumoud ?
Oui, non, je crois que c'est... Il y a un ralentissement de la croissance chinoise par rapport à ce qu'elle a connu dans les années 2000, mais je crois qu'il faut vraiment s'interroger sur la modification du régime de croissance de la Chine. Effectivement, la hausse des coûts salariaux unitaires dont je parlais tout à l'heure...
La hausse des coûts salariaux unitaires, c'est quoi? C'est le coût du travail.
C'est le rapport entre les salaires et la productivité. Donc c'est pas seulement le niveau de coût salarial, c'est le rapport entre la croissance des salaires et la croissance de la productivité. Et en fait, comme la productivité croît moins vite que les salaires, eh bien les coûts par unité produite en Chine sont devenus quasiment égaux à ceux des États-Unis. On était en 2000 à quelque chose comme 30 à 40% du coût salarial unitaire américain, et aujourd'hui on est à peu près à 95% du coût salarial unitaire américain. Les Américains ont au contraire augmenté leur productivité alors que les salaires n'ont pas beaucoup augmenté. Donc ça, c'est un facteur clé qui explique le fait que la croissance chinoise n'est plus fondée sur l'exportation de biens assemblés à bas coût, sur des avantages comparatifs disons classiques, mais a changé de nature. La part des biens assemblés en Chine dans les exportations chinoises a chuté de moitié entre les années 2000 et aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est plus que à 30% de produits assemblés en Chine dans les exportations totales, contre 60% auparavant. Donc on a un changement de modèle, et ça ne signifie pas qu'il y a une fragilisation de l'économie chinoise. Je ne crois pas. Je ne suis pas un spécialiste de la Chine. En travaillant sur l'économie mondiale, on voit bien ce qui est en train de se produire. Effectivement, la hausse des coûts et la raréfaction du travail dans les zones côtières où se concentre la production étrangère et la production chinoise est en train de se modifier pour aller vers le centre de la Chine. On a un retournement, et les autorités chinoises aident beaucoup aussi à ce que la croissance se déplace vers la consommation intérieure, vers l'exploitation d'une certaine manière, la consommation des classes moyennes et des provinces intérieures. Donc ce mouvement fait qu'on a un modèle qui est passé d'un modèle très extraverti, fondé sur l'exportation de l'atelier du monde, etc., vers un modèle de croissance plus durable d'une certaine manière, plus structurelle. Et je crois que c'est ça qui est en train de se produire à l'échelle mondiale et qui explique que les taux de croissance des pays émergents sont moins élevés. C'est eux qui ont maintenu la croissance du commerce mondial. De l'autre côté, les pays développés ont une croissance qui s'est tarie. En Europe, ça reste inférieur à 2,5%. Et en fait, aux États-Unis et en Amérique du Nord, la croissance est un peu plus forte, mais le fait que les conflits et les barrières commerciales se soient accrues, eh bien, empêchent un effet d'effervescence d'une certaine manière qu'on a connu par le passé de la croissance mondiale.
Véronique Riflores, vous partagez ce constat assez rassurant, somme toute, de Mahmoud sur l'économie chinoise?
Non, j'aimerais pouvoir le partager, mais non, c'est pas du tout la manière dont je comprends les développements de l'économie chinoise. Il s'agissait des souhaits des dirigeants chinois, effectivement, d'opérer cette transition de l'économie en faveur d'une économie, d'une croissance plus endogène, à partir du moment où une classe moyenne aussi importante, c'est assez légitime d'imaginer que la Chine puisse se développer du point de vue domestique et soit moins dépendante de ses exportations à bas coût qu'elle ne pouvait plus assurer de toute façon. Ce qui s'est passé néanmoins, c'est que pour assurer cette transition, la Chine a usé de moyens qui sont bien connus, c'est la dette, c'est le crédit. Dans des proportions absolument monumentales. C'est-à-dire qu'en l'espace de 8 ans, l'économie chinoise s'est endettée à un niveau qui correspond quasiment au plus haut niveau mondial aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle a parcouru en 8 ans le chemin parcouru par les Américains en 50 ans ou 40 ans. Voilà ce qu'a fait la Chine. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, cette possibilité d'accompagner son rattrapage et le rattrapage du niveau de consommation de ces classes moyennes par une croissance modérée du crédit, de l'endettement, qui aurait dû s'étaler sur 2 ou 3 décennies, s'est concentré sur une demi-décennie, qu'aujourd'hui la Chine est exsangue parce que surendettée à tous les niveaux, que cette injection de liquidité a créé une multitude de bulles. La première d'entre elles est la plus préoccupante, cette gigantesque bulle immobilière qui finira par être corrigée. Alors pour l'instant, le gouvernement use et reuse de moyens pour inflater l'ensemble et contrer ou reboucher les interstices et pour ne pas laisser les failles se creuser. Mais l'ensemble est extrêmement précaire. Donc la La grande difficulté, effectivement, ou la grande interrogation, c'est la Chine a-t-elle vraiment encore les moyens d'assurer cette transition et de se rendre plus indépendante de ses exportations manufacturières? J'en doute de plus en plus aujourd'hui et je pense que la partie est loin d'être gagnée.
Alors, vous avez parlé de bulle immobilière, Véronique Riche-Flores. On va aller constater sur le terrain s'il y en a une ou pas, avec un reportage à Yanjiao, à l'ouest de la capitale chinoise, dans ce qui était jadis un Eldorado de l'immobilier, mais qui est aujourd'hui affecté par la crise économique chinoise. Si tant est qu'il y ait une crise, c'est en débat entre vous deux. C'est un reportage Écho d'ici Écho d'ailleurs, signé Stéphane Lagarde.
Le symbole de l'arc-en-ciel à la sortie de l'autoroute venant de Pékin. Nous sommes juste à la frontière entre la capitale chinoise et la province du Hebei, des avenues perpendiculaires, des forêts de béton. Il y a quelques mois encore, Yanjiao était le paradis des vendeurs immobiliers. Mais aujourd'hui, de nombreuses agences ont mis la clé sous la porte. Tout s'est arrêté, explique Wang Qiang, éleveur de pigeons et résident du quartier.
Vous voyez ce restaurant, c'est l'heure du déjeuner, il n'y a personne. Avant, il y avait une longue file d'attente. Quand les gens arrivaient dans cette rue, une foule d'agents immobiliers se précipitait sur eux avec des prospectus pour leur vendre des appartements. C'était un métier très rentable. Un bon vendeur pouvait gagner jusqu'à 130 000 euros par an. Maintenant, plus personne n'achète.
Yanjiao ou l'histoire d'une explosion démographique. Entre 2002 et 2016, la population est passée de 30 000 à 1 200 000 habitants. Le prix des appartements s'est envolé, puis les autorités ont décidé de mettre un terme à la spéculation. Les prix ont dégringolé. Sur le marché couvert, la boucherie est l'un des derniers commerces en activité. Li Shuidong, cliente originaire de la province du Heilongjiang, dans le nord du pays.
L'économie chinoise recule en ce moment et on le voit tous les jours. Je tiens un petit restaurant de brochettes dans la rue le soir. Avant, je gagnais plus de 2000 euros par mois. Maintenant, c'est la moitié. Je songe à rentrer dans mon pays natal, mais là-bas, l'économie locale est vacillante. Ça s'est vraiment dégradé. Depuis 2018, les affaires ne sont pas bonnes. Les gens sont partis, ça fait chuter l'activité.
Même les agences aux enseignes prestigieuses, la résidence des Pans, la cité des stars sont aujourd'hui désertées, ce qui ne devrait pas modifier la politique d'encadrement des prix de l'immobilier. Yi Xianzhong, professeur d'économie à l'université de Qingdao.
Je ne crois pas que le gouvernement relâchera sa pression sur les prix de l'immobilier dans les villes de troisième catégorie. Cette année, la croissance chinoise devrait encore diminuer pour atteindre entre 6,2 et 6,5%. Ce ne sera pas une chute vertigineuse, mais un ralentissement. La bulle immobilière, elle est toujours là. Elle représente un danger pour l'économie.
Un danger qui semble pour l'instant maîtrisé. À Yanjiao, les prix du mètre carré ont été divisés par 4 en moins de 2 ans.
Un reportage donc de Stéphane Lagarde que vous pouvez retrouver sur la page Écho d'ici, Écho d'ailleurs de cette émission, donc sur le site internet www.rfi.fr avec des photos de cette ville et également quelques images vidéo. Comment, Al-Mahmoud, intégrez-vous ce reportage dans votre raisonnement sur l'atterrissage en douceur de l'économie chinoise dont vous nous parlez, sur le rééquilibrage?
Je ne fais pas de prédiction sur l'avenir de la croissance chinoise. Je pense que les ressources sont importantes, qu'il y a ces effets de bulle qui implosent, qu'il y a des tensions nouvelles pour l'économie chinoise. Néanmoins, c'est lorsque nous parlions de la position de la Chine dans le commerce mondial et dans l'économie mondiale que j'indiquais que il y a tout de même encore des excédents chinois qui sont tout à fait remarquables, d'où d'ailleurs les stratégies protectionnistes, le retour du protectionnisme américain, etc. Donc sur l'industrie manufacturière, il y a, quand on regarde les statistiques du commerce extérieur de manière précise et par qualité des produits, on voit qu'il y a un changement dans la spécialisation chinoise, que les Chinois exportent de plus en plus des biens à fort contenu en valeur ajoutée, des biens intermédiaires et pas seulement des biens assemblés à bas coût. Donc on a une modification qui est, et on a des investissements directs croissants de la Chine vers l'extérieur, ce qui n'empêche pas que effectivement les tensions qui ont été décrites se passent. Mais je pense que la Chine est en transition. Alors ça, il peut y avoir des crises qui peuvent frapper durement certains endroits avec la bulle immobilière, mais il ne faut pas oublier non plus que nous avons affaire à une économie extrêmement administrée et que ce qui a été dit dans le reportage sur l'encadrement des prix de l'immobilier fait qu'on a des amortisseurs qu'on n'a peut-être pas dans d'autres pays, comme ce fut le cas, par exemple, aux États-Unis avec l'implosion absolument gigantesque de la bulle immobilière avec la crise des subprimes. Donc, en fait, il y a des amortisseurs. Il y a aussi une dynamique de l'intervention chinoise et des autorités qui est plus ou moins efficace. Mais je pense néanmoins que, de point de vue structurel, la modification du régime de croissance est en cours. Elle va avoir des coûts, elle va avoir des soubresauts, elle va avoir des reflux. Mais ce changement de nature du régime de croissance est en cours.
Est-ce que le monde financier international, Véronique Richelorès, se préoccupe de l'impact de ce qui se passe en Chine?
Oui, très clairement. Alors, vous avez eu pendant plusieurs années, d'ailleurs, c'est pas nouveau, pas mal d'inquiétudes sur la situation, la stabilité financière, en particulier des entreprises chinoises. Aujourd'hui, c'est un sujet qui redevient un sujet regardé de près, avec néanmoins ce sentiment que de toute façon, les autorités ont sans doute les moyens de calfeutrer, ce dont je suis également intimement convaincue. Par contre, les données également sur l'économie et la croissance chinoise, on l'a vu en début d'année avec un certain nombre d'indicateurs qui n'étaient pas bons, et à un moment où les perspectives de l'économie mondiale sont très incertaines et très fragiles, ont été des éléments additionnels des inquiétudes, en particulier donc sur les marchés financiers.
Qu'est-ce qui préoccupe le monde financier actuellement?
Oh, je pense que les sujets de préoccupation sont considérables. Si on veut juste pour terminer sur la Chine, la problématique, c'est qu'entre autres, c'est que si la Chine n'a pas les moyens de retrouver une dynamique spontanée, on va dire, de sa croissance, qui lui permette d'assurer d'aller là où elle veut aller, c'est-à-dire de devenir la première puissance mondiale devant les États-Unis, ou au moins de continuer cette trajectoire. Alors, on le sait, les gouvernements, et particulièrement des gouvernements autoritaires, développeront probablement une certaine hargne stratégique qui se retrouve, par exemple, dans l'agressivité de la Chine en matière commerciale européenne, avec le développement de la route de la soie vers les marchés européens. Et finalement, c'est une situation qui rebondit avec une certaine insécurité en Europe. Comment va-t-on absorber cette pénétration et cette agressivité commerciale des produits chinois? Parce que finalement, la Chine et les États-Unis sont en bisbille, et l'Europe, quelque part, risque d'en subir le contre-coup par plus d'agressivité commerciale. Donc, vous voyez comment, de fil en aiguille, se trame un environnement géopolitique, géostratégique, de plus en plus inquiétant, de plus en plus instable, qui est une problématique cruciale des marchés financiers. Les marchés financiers sont des marchés qui privilégie la liberté de capitaux, donc dans un environnement où la visibilité idéalement serait la meilleure, pour assurer effectivement d'abord la mobilité du capital pour aller chercher du rendement. Si vous avez des interférences géopolitiques, des tensions protectionnistes ou géostratégiques, etc., alors vous entamez le cœur de ce qui fait la sérénité, si je peux dire, des marchés de capitaux ou des marchés financiers. Et je pense qu'une bonne partie de l'incertitude actuelle vient de ce phénomène-là, auquel on peut bien évidemment raccrocher les fantaisies de moins en moins, de plus en plus inquiétantes, d'un Donald Trump aux États-Unis, d'un Poutine en Chine, de dirigeants britanniques, et de cette saga du Brexit qui finalement nous donne une leçon terrible, terriblement affligeante sur le degré de confiance qu'on peut avoir aujourd'hui à l'égard du politique. Et ça aussi, ça rentre dans cette équation des anxiétés, me semble-t-il, des marchés financiers actuels.
Al Mahmoud, vous, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus dans ce monde financier? Est-ce que vous partagez ce constat?
Oui, je partage ce constat. En effet, je pense qu'on est dans une période de récurrence des crises. C'est-à-dire qu'au fond, on a eu cette crise des subprimes, il y a eu des régulations financières plus ou moins abouti, et on est dans un monde financier lui-même, avant même de regarder la sphère réelle, qui est extrêmement dangereux et extrêmement inquiétant en termes de bulles. Aux États-Unis, il y a des bulles, une bulle immobilière, une bulle sur l'automobile, et une bulle sur les frais des étudiants, les droits d'inscription qui sont extrêmement élevés, qui touchent les familles. Il y a des bulles par-ci et par-là qui risquent en effet d'imploser et de se diffuser. Donc il y a des craintes sur les marchés financiers, qui sont des craintes majeures, et qui rejoignent finalement le constat d'un monde institutionnel beaucoup plus agressif, avec des guerres commerciales en effet. Et alors, j'émettrai peut-être un certain nombre de nuances sur cette question de l'effondrement qui pourrait venir du protectionnisme lui-même et des facteurs géopolitiques eux-mêmes, c'est que on a des perspectives aussi européennes de reprise en main en quelque sorte par rapport au couple États-Unis-Chine, la Chine ayant des excédents manufacturiers majeurs et les États-Unis dans les services, on est en train de regarder les spécialisations intra-européennes, elles se reconfigurent et peut-être elles sont un peu entre les deux, entre le modèle chinois manufacturier pur et le modèle américain serviciel et des services de la connaissance, des brevets, etc. pur, mais il y a aussi des perspectives éventuellement, s'il y avait une volonté politique, pour construire une Union européenne qui pourrait être la résistance à ces phénomènes d'effondrement.
En tout cas, l'économie américaine ne semble pas perturbée par ces questionnements. Le chômage y reste très faible et la croissance se maintient à un rythme soutenu. Pourtant, il y a un petit grain de sable dans la mécanique, en ce moment en particulier, c'est le shutdown. Écoutez l'extrait de ce reportage diffusé au début de la semaine sur les antennes de RFI et signé Anne Corpé à Washington.
Sur Pennsylvanie Avenue, les locaux de World Kitchen grouillent de monde. L'organisation, qui distribue habituellement des repas dans les zones touchées par des catastrophes, a décidé d'ouvrir là une cantine gratuite pour les employés fédéraux qui ne sont pas payés. Alexandra Garcia est chargée du projet. Le lieu de la cantine n'a pas été choisi par hasard.
On est à peu près à moitié du chemin entre le Sénat et la Maison-Blanche. Il y a quelque chose de symbolique là. On trouve ça une question d'urgence humanitaire. Les employés du gouvernement qui nous servent tous les jours, puis en ce moment, pour eux, c'est pas facile quoi. Alors, on veut aider. On fait à peu près 5 à 6 000 repas par jour.
Deux femmes patientent pour obtenir leur repas. Elles travaillent ensemble dans une agence gouvernementale et souhaitent rester anonymes.
Pour l'instant, je tiens le coup, mais pour combien de temps, je ne sais pas. On doit faire attention à chaque centime dépensé.
Aujourd'hui, j'ai passé un entretien pour devenir professeur remplaçant parce que je n'ai aucun revenu. Et on ne sait pas combien de temps cela va durer. Cela ne devrait pas se produire. Est-ce qu'il faut que quelqu'un se suicide pour que la situation soit prise au sérieux? C'est une situation tragique. J'étais en colère au début. Maintenant, je suis juste triste.
Dehors, la file s'étend sur plusieurs dizaines de mètres. Hélène est tout au bout, derrière le coin de la rue. Cela fait deux jours qu'elle vient déjeuner ici.
Mon mari et moi sommes tous les deux suspendus. Donc on est en train d'évaluer la situation pour voir ce que nous devons faire. Emprunter, nous inscrire au chômage peut-être. Être utilisé comme des pions pour remplir une promesse de campagne nous donne l'impression qu'on n'a aucune valeur. Les gens riches du Congrès ne devraient pas être payés non plus, comme nous. Et le président ne devrait pas toucher d'argent. C'est tout ce que j'ai à dire.
Hélène essuie discrètement une larme. Au loin se découpe l'imposant bâtiment du Congrès. Les négociations avec la Maison-Blanche sont toujours au point mort.
Un reportage signé Anne Corpé, donc sur RFI dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, où nous parlons de la situation économique internationale avec les économistes Véronique Riche-Flores et Anne Moumoud. Donald Trump, c'est un grand problème pour l'économie mondiale en ce moment, Véronique Riche-Flores?
Oui, pour répondre à votre question. Et par ailleurs, on le voit dans le fonctionnement américain, on a face à nous un personnage qui est à peu près imprévisible, qui donne le sentiment d'être tout juste capricieux. Finalement, on a je pense souvent l'impression d'avoir comme un gamin qui ferait un gros caprice, sauf que ce gamin a le pouvoir, hein, ce qui est éminemment préoccupant effectivement, et y compris pour la conjoncture américaine qui aujourd'hui quand même donne des signes de pays juste pays émergents, pays sous-développés.
C'est-à-dire
avec le shutdown d'une administration qui est incapable de fonctionner et dont les conséquences économiques, sociales, pour la population également, sont absolument dramatiques et inattendues. On va dire pour la première question.
Non, moi je dirais que je partage un certain nombre de points de cette caractérisation de l'économie américaine, parce qu'il ne faut pas se fier à la croissance du PIB ou aux résultats sur le chômage effectivement très bas. L'histoire économique montre que des régimes très autoritaires ayant mis en place, je pense à l'Allemagne nazie ou à d'autres expériences, se sont traduites par, au départ, une croissance forte. Avec un boom de croissance, effectivement, des taux d'imposition fiscaux sur les sociétés qui sont très bas et qui peuvent attirer des sièges sociaux, enfin toute une série d'éléments de ce type, font qu'il peut y avoir une reprise, ce qu'on observe aujourd'hui, de la croissance, mais qui n'est pas durable à mon avis. Elle n'est pas durable pour trois raisons. D'une part, parce que ce que l'on a expliqué au niveau mondial en termes d'échanges commerciaux va effectivement aussi à terme toucher les exportations américaines. Du point de vue de la renégociation des accords de l'ALENA, de l'accord de libre-échange nord-américain, là aussi...
Mexique, Canada, États-Unis.
Exactement, mais là aussi ça peut saper à moyen terme les bases de la compétitivité des entreprises américaines. Et puis, troisième élément qui est lié au shutdown dont vous venez de parler, la force de l'économie américaine sur le très long terme, c'est sa capacité à puiser dans le stock de connaissances mondiales par l'immigration en particulier de chercheurs, etc. Et là aussi, les signaux envoyés par l'économie américaine font que quand on observe la répartition des flux mondiaux de compétences, eh bien les États-Unis risquent d'une certaine manière de se priver de cette capacité extraordinaire qui régénère la compétitivité américaine et l'innovation de puiser dans ce stock de connaissance mondiale à travers une politique très agressive à l'égard des migrants, de l'immigration en général, mais qui ne va pas uniquement toucher les Mexicains
ou les
Centra-Américains, mais qui va également toucher des gens très qualifiés qui viennent de différents endroits et qui risquent à un moment donné de briser l'élan structurel de la croissance américaine, sans parler du fait que il y a des déficiences aux États-Unis remarquables en matière d'infrastructure, de transport, de télécommunications, de routes, de services publics, etc., et qui sont aussi là bloqués du fait d'un homme politique, d'une administration instable, aventurière et mercantiliste et agressive à tout endroit.
Quand je vous écoute, je me dis, mais les politiques qui dirigent le monde en ce moment sont un danger pour l'économie mondiale. Véronique Rich-Flores.
C'est bien souvent le cas, effectivement, et à certains égards, ou dans certains cas, un danger également pour les populations, pourrait-on dire. Danger pour l'économie mondiale parce qu'on précipite les ruptures vers quelque chose qui n'est pas défini. Et je pense que si on regarde ce qui se passe en Europe, notamment, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on laisse mourir quelque part la construction européenne, les grandes avancées, par manque d'ambition, par incapacité à se mettre d'accord pour au moins déterminer les grandes lignes directrices d'une cohésion, y compris minimale, si je peux dire, mais cette incapacité de visionnaire du politique est quelque chose qui, depuis une dizaine d'années, est véritablement très problématique. Je pense que ça vient c'est une question générationnelle. Génération étant celle qui a grandi avec une économie globale, une économie de l'offre où tout se passait relativement bien, un petit peu l'économie de bisounours. Et aujourd'hui, cette économie-là a disparu. Et il nous faudrait effectivement des vraies politiques. Peut-être qu'il faut passer par une crise profonde pour retrouver cette capacité visionnaire et cette ambition politique et ce combat politique pour en faire quelque chose qui est de retombée économique. Quand je parle de combat économique ou politique, c'est le combat constructif, hein. Cette volonté d'aller de l'avant et de ne pas toujours tenter de revenir vers un monde du passé.
Oui, alors moi je crois que la volatilité des pouvoirs politiques et la radicalisation d'un certain nombre d'entre eux au Brésil, en Europe, les régimes qu'on appelle illibéraux par euphémisme, aux États-Unis, elle est le produit de l'échec de la mondialisation en réalité. C'est-à-dire qu'au fond, on a cru que la mondialisation pouvait produire des richesses, elle a produit des richesses, elle a sorti des pays de la pauvreté, etc. Mais elle a créé des inégalités majeures, et ces inégalités ont touché notamment les classes moyennes. Et ce que les économistes appellent l'effet de polarisation sur le marché du travail est très bien visible, hein, les perdants étant des ouvriers, des techniciens. On a fait un travail là-dessus de manière extrêmement fine pour regarder l'impact de la globalisation sur les différentes catégories de travailleurs qui ont été affectées. Ce ne sont plus seulement les non qualifiés comme autrefois qui étaient affectés par la mondialisation, les délocalisations, ce sont de plus en plus des porteurs de tâches d'exécution, des tâches manuelles, mais ça touche aussi des ingénieurs, des techniciens, etc. Et donc, en fait, les classes moyennes ont subi un choc majeur lié au fait que les mécanismes de compensation des effets négatifs de la mondialisation n'ont pas fonctionné. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on a une crise des mécanismes de compensation, les perdants de la mondialisation restant les perdants, alors que la théorie économique jusqu'à présent avait pour prédiction que finalement s'il y avait des perdants, cela pouvait être compensé par des gains de bien-être global qui pouvaient ensuite se redistribuer par un effet de ruissellement, par un effet. Donc cet échec majeur dans les capacités des institutions politiques, des décideurs politiques à régler les problèmes de compensation des effets négatifs de la délocalisation, eh bien c'est ça qui a produit la fragilité des pouvoirs politiques, qui a réduit de manière extraordinaire les barrières à l'entrée dans la politique. On a vu un Macron rentrer en 6 mois ou en une année et gagner les élections. On a vu un pouvoir au Brésil aussi de quelqu'un qui prend le pouvoir extrêmement rapidement, un Trump, etc. Donc cette baisse des barrières à l'entrée en quelque sorte dans le politique fait qu'on a une fragilisation croissante. Et je crois que vraiment la question, c'est la question de l'absence de capacité des gouvernements à régler les problèmes des effets négatifs de la délocalisation, de la mondialisation, etc. Nous, on a fait une étude sur l'économie française, qui était publiée dans l'économie statistique. On a regardé les effets des délocalisations par zone d'emploi, par bassin d'emploi. On a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'au niveau macroéconomique, les effets des délocalisations, c'est moins de 5% des emplois détruits qui sont expliqués par la délocalisation. Le reste, c'est des gains de productivité, du progrès technique. Mais quand vous regardez les choses par zone d'emploi, par bassin d'emploi, c'est-à-dire, en fait, un découpage du territoire en 322 zones d'emploi où travaillent et vivent les gens, vous allez vous rendre compte qu'il y a une vingtaine de pourcents de zones d'emploi qui prennent les chocs, mais complètement, c'est-à-dire à 80% des emplois sur place, même si c'est pas visible au niveau macro. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces gens qui sont mis au chômage, qui sont mis en difficulté dans les zones d'emploi très fragiles, eh bien, ces chocs-là ne sont pas compensés parce qu'il n'y a pas de mobilité du travail. La mobilité du travail, ça se décrète pas. Les gens, il faut qu'ils aient des moyens de logement, d'éducation pour aller dans des territoires où au contraire il y a des besoins de recrutement qui ne sont pas assouvis. Il y a aussi pas de mécanisme de réallocation des gens qui sont au chômage dans des secteurs pour aller vers d'autres secteurs parce que c'est très long comme processus. Et donc en fait les gens fragiles restent dans les régions fragiles et sont verrouillés sur place, et donc ça crée un climat de méfiance à l'égard de toute une série de choses, de l'immigration, etc. Et ça crée effectivement cette situation dans laquelle les gens, d'une certaine manière, les gilets jaunes en France, etc. Mais c'est aussi le cas dans le cas de l'électorat de Trump. Eh bien, se retournent à tort, mais c'est comme ça, vers des régimes, vers des pouvoirs politiques très autoritaires, très populistes, très démagogues.
Brièvement, Véronique Rifflorèche, puisque nous arrivons au terme de cette émission, échec de la mondialisation, c'est votre constat également?
Je ne le formulerai pas comme cela. Je pense que le processus de mondialisation s'est accompagné d'un processus d'hyperfinanciarisation de nos économies, et que c'est plutôt cette deuxième jambe qu'on ne maîtrise pas du tout, face à laquelle les politiques sont terrorisées, ce qui conduit effectivement à... puisque le capital, lui... est quasiment libre de circuler aujourd'hui, à ces politiques qui visent à de plus en plus le retenir. Or, si dans un contexte de financiarisation extrême, si vous n'avez plus la capacité d'aller taxer, d'aller chercher du revenu auprès d'un capital qui de plus ne s'investit pas dans l'économie, eh bien vous vous privez de ressources absolument nécessaires pour le bon fonctionnement et la bonne répartition ou redistribution des revenus du travail ou de ceux du capital idéalement. Donc vous déséquilibrez complètement le système, hein, au point qu'on arrive à une situation où le capitalisme devient un peu déviant, on va dire, hein, poussé à l'extrême, hein, et tétanise en réalité le pouvoir politique.
Merci à vous deux, Helmut Mood. Cette émission est maintenant terminée. Merci à vous, Véronique Riche-Flores. Écho d'ici, Écho d'ailleurs, était réalisé conjointement par Guillaume Munier et Olivier Roux. Vous pouvez nous retrouver sur l'application de votre smartphone Pure Radio, c'est l'application de RFI. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.